Mon livre qui s'appelle Les prix de la colère, il part d'un constat, c'est la place de plus en plus grande des prix dans la colère dans un certain nombre de sociétés contemporaines. C'est quelque chose qu'on a pu observer en France, avec par exemple le mouvement des Gilets jaunes qui est parti notamment de l'augmentation du prix du gazole. On peut le voir également dans un certain nombre de mouvements de colère qu'on voit aujourd'hui dans différents pays du monde, au Chili, où il n'y a pas que les prix, mais on a l'impression que c'est quelque chose de récurrent dans la colère des personnes qui crient dans la rue. Et c'est quelque chose aussi, si on remonte dans l'histoire, qu'on a vu très fortement en 2008, avec ce qu'on a appelé les émeutes de la faim dans la presse internationale, même si c'est un terme qui ne faisait pas vraiment sens pour les sociétés concernées, où c'était peut-être la première fois où il y avait des mouvements de colère simultanés sur plusieurs continents à la fois contre l'augmentation des prix. Donc il y a une place très forte des prix aujourd'hui dans un certain nombre de sociétés contemporaines. Et c'est ce que j'étudie dans le cadre d'une société particulière, qui est la société du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Mais ce faisant, j'espère aussi donner des clés de compréhension sur les mouvements de colère similaires qui peuvent se dérouler dans d'autres sociétés que celle du Burkina Faso. Alors, pour comprendre cette colère face à l'augmentation des prix, il y a plusieurs voies possibles. La première, on pourrait dire, c'est la voie la plus intuitive, c'est de l'expliquer tout simplement par la fluctuation des prix. Et c'est quelque chose qui n'est pas écarté, hein. On a l'impression qu'il y a un lien et qui peut d'ailleurs s'exacerber dans les années à venir, hein, au moment où on parle d'augmentation des prix des ressources primaires liées à leur raréfaction, notamment du pétrole. Mais ça n'explique pas tout. L'histoire, et des historiens, des historiennes en particulier, nous montrent qu'il n'y a pas de lien mécanique entre l'augmentation des prix et la colère, comme si des personnes réagissaient de manière mécanique à un certain degré de souffrance suite à laquelle ils se révoltaient. La deuxième voie possible d'explication, c'est de se tourner vers les logiques de politisation, les dynamiques d'organisation, comme si finalement cette place des prix était liée à des organisations politiques qui accèdent de plus en plus leurs revendications sur les prix. Alors c'est quelque chose qui n'est pas aussi écarté, mais qui à mon avis n'est pas essentiel ou pas premier, dans le sens où aujourd'hui, au contraire, ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup à faire à des mouvements qui sont relativement désorganisés, ou en tout cas sans organisation attendue, syndicale ou politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres biais d'organisation, mais ça ne passe pas par les cadres les plus attendus d'expression de la colère, comme les syndicats ou les partis. Et la troisième voie d'explication possible, qui est celle finalement que je privilégie, c'est de se tourner vers les compréhensions populaires de l'économie et du pouvoir. Et c'est là le point central de mon livre, c'est de dire que cette colère face à la vie chère, face à ce qu'on appelle la vie chère au Burkina Faso, elle est liée au fait que les prix sont pas seulement perçus comme une réalité économique, mais aussi comme un biais de gouvernement, comme si des populations se sentaient gouvernées par les prix. Et c'est ça finalement que j'étudie dans cet ouvrage, c'est pourquoi et comment les populations en sont venues à percevoir les prix non pas seulement comme une réalité économique abstraite, mais comme un biais extrêmement concret du gouvernement, ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement interpellant dans le monde néolibéral dans lequel on vit. Alors ça, je l'étudie de trois manières successives. La première manière, c'est dans une démarche d'inspiration ethnographique, ça a été de faire des entretiens dans des quartiers populaires dans lesquels je vivais, qui, basiquement, consistaient à demander aux gens comment ça va pour étudier la manière dont ils ou elles disent que ça va pas. Et ces entretiens qui parlent d'une question assez intuitive, elles m'ont permis de montrer que les prix avaient une place très importante dans l'expression du « ça va pas », mais aussi dans les perceptions de l'injustice. Et que ce n'était pas les prix de manière générale, mais les prix de certaines choses, qui n'étaient pas forcément les mêmes selon telle ou telle personne. Les personnes musulmanes, par exemple, se référaient beaucoup au prix du sucre, du fait notamment de la consommation du sucre qui augmente beaucoup pendant les mois de Ramadan. Ou les femmes, au prix de ce qu'on appelle les condiments, qui rentrent dans la composition de la sauce, parce qu'elles ne pouvaient pas varier les repas autant qu'elles pouvaient pour le reste de la cour pour lesquelles elles préparaient le repas. Ces entretiens, ils ont permis de montrer aussi une deuxième chose, c'est la place des prix sur la mémoire qu'on a des régimes politiques du passé. Beaucoup de personnes se référaient de ces régimes du passé comme un temps où la vie était plus facile, mais aussi plus juste, parce qu'on avait des gouvernements qui régulait les prix. Et ça ne veut pas dire que les gouvernements le faisaient effectivement, mais qu'on s'en rappelle comme des gouvernements plus justes parce qu'ils régulaient les prix. Et ça m'a amené, du coup, dans un deuxième temps, à faire une histoire de la politique des prix, à quitter cette inspiration ethnographique pour me tourner vers l'histoire, où j'ai montré dans ce deuxième temps que les prix, effectivement, dans un pays comme le Burkina Faso, avaient une place importante dans le gouvernement du social, et que finalement, depuis la période coloniale et dans les premières années d'indépendance, les prix appartenaient à un registre beaucoup plus du pouvoir qu'un registre de la contestation. Et dans un troisième moment, j'étudie une période beaucoup plus contemporaine qui est le moment post-2008, donc des émeutes en fait, qui éclatent face à l'augmentation des prix au Burkina Faso comme différentes parties du monde, en montrant comment ça se passe en fait, quelles sont les personnes qui ont une part importante dans ce développement de la colère. Je montre notamment qu'il y a des acteurs assez peu attendus, comme les petits commerçants, qui ont une place importante dans ce développement de la colère face à la vie chère. Mais aussi, quelles sont les cibles des émeutiers, qu'est-ce qui casse, et ce faisant, quelles sont leurs perceptions du pouvoir. Mon truc, c'est de dire que c'est quelque chose qui peut intéresser des gens qui en ont rien à faire du Burkina Faso, en fait. Et c'est vrai que moi, j'en suis vraiment convaincu, en fait. C'est qu'il y a des anthropologues qui disent que regarder aujourd'hui les sociétés africaines, c'est une manière de comprendre ce qui se passe ailleurs et ce qui peut se passer aussi en France. Rien ne dit que demain, les prix n'auront pas une place centrale dans la colère d'un pays comme la France. Et pour moi, c'est ça le projet de ce livre, c'est à la fois d'écrire très précisément des émeutes, des manières dont des gens vivent dans un pays comme le Burkina Faso, mais aussi montrer que ces manières-là de vivre peuvent parler aussi du politique en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Et c'est quelque chose qui est pour moi important de dire en fait.